sur une théologie, l'Église comme sacrement de salut par le Père Philippe à Rimont, le 29 octobre 1995, troisième conférence. Je voudrais, dans cette dernière petite causerie, eh bien, on n'épuise pas le mystère. On essaie de s'approcher du mystère pour voir combien ce mystère est grand. Celui du Christ et de l'Église. Et que c'est dans cette lumière que chacun d'entre nous devons découvrir la voie que l'Esprit Saint trace pour nous, la voie à la sainteté. L'Église est sainte, elle est une, elle est apostolique, elle se rattache. Et le Saint-Père insistait, on l'a tous entendu tout à l'heure, l'aspect missionnaire, c'est la fécondité, hein. L'Église doit s'étendre au monde entier, la catholicité. Il y a deux grands aspects que je voudrais souligner en dernier. D'une part, la maternité divine de Marie sur l'Église. Et la hiérarchie avec Pierre. Je crois que c'est important de toujours les voir en parallèle. Et nous maintenons toujours ces deux grands axes. Si vous retenez ça, c'est déjà bien. Il ne faut surtout pas en lâcher un au profit de l'autre, croyant que c'est comme ça qu'on comprendra le mieux. Peuple, famille, grâce capitale du Christ, les sacrements. Le mystère de la maternité divine de Marie est pour l'Église dans la ligne même de la grâce sanctifiante du Christ. Marie est au-delà, tout en étant dans l'Église, elle est au-delà, puisqu'elle est mère et modèle. Pas cause finale, mais cause exemplaire. Au sens très grand. Et comme elle est mère, c'est elle qui résout tous les problèmes matériels, temporels, concrets, moraux. Elle est d'une certaine manière au-delà de l'Église, donc au-delà de la hiérarchie, au-delà des sacrements. Et pourtant, elle est, elle aussi, relative aux sacrements, au moins le sacrement de l'Eucharistie. C'est ça qui est très extraordinaire dans le mystère de Marie. Mais si on ne voit pas le mystère de Marie comme mère de l'Église, vous comprenez, il y a tout un aspect de l'Église qu'on ne voit pas. Et l'aspect d'intimité, l'aspect de secret de l'Église, l'aspect du développement le plus profond de l'amour qui se fait auprès de Marie et dans l'intimité avec Marie. Ça me semble très important. N'opposons surtout pas ecclésiologue, mariologue, c'est très mauvais. Quelqu'un qui essaie de comprendre le mystère de Marie, nécessairement la voit dans sa maternité divine, contemplative, celle qui est associée à tout le mystère du Christ. Et donc, d'une certaine manière, elle est l'Église du Christ. On pourrait presque dire ça. En sens qu'elle manifeste. Évidemment, elle n'est pas pour le Christ Église, vous comprenez bien, elle serait instrument de grâce. Mais entre Marie et Jésus, il y a une coopération. La très grande coopération à la croix. Qui dit coopération, dit échange d'amour. Et non seulement échange d'amour, mais aussi servante. Donc amour et réalisme de l'amour, le travail, servante. Elle est celle qui adore avec Jésus, elle est celle qui adore Jésus. Et c'est tout le temps comme ça le mystère de Marie. C'est pour nous celle qui nous manifeste Jésus et les secrets de Jésus. C'est la bonne terre qui garde la parole de Dieu et qui la garde pour que la parole de Dieu puisse être féconde. Elle est celle qui vit l'Eucharistie. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'Eucharistie, dans la pensée de Jésus, dans l'intention la plus profonde du Christ, l'Eucharistie a été instituée pour elle. C'est comme cela que le Fils remercie sa mère. Le Fils bien-aimé du Père remercie sa mère. Il ne pouvait pas la remercier mieux que par l'Eucharistie. Sacrement d'action de grâce. Et c'est celle qui n'a qu'un seul désir, c'est de vivre de la volonté du Père. Voyez comment les trois nourritures en Marie prennent un aspect de plénitude. C'est pour ça qu'elle est partie principale de l'Église. Et vous avez cette fameuse parole de Thomas d'Aquin. Pars principalis est totum. La partie principale, c'est le tout. Qualitativement, pas quantitativement. Et c'est vrai. Marie, elle est l'Église dans toute sa pureté, dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, dans toute son unité, dans toute son apostolicité et dans toute sa catholicité. C'est en elle qu'on voit l'intention de Dieu se réaliser parfaitement et pleinement. Marie n'a jamais mis d'obstacle pour diminuer l'amour du Christ sur elle, l'amour du Père sur elle. Jamais mis d'obstacle. Elle est une petite créature qui, par le fait même, comme créature, est nécessairement limitée, finie. Mais par le mystère de la grâce, elle acquiert quelque chose d'infini. Puisqu'elle est celle qui reçoit tout du Christ. Et c'est pour ça que regardez le mystère de Marie et le contempler nous permet d'avoir une vision de l'Église non pas idéale, mais réaliste dans toute sa perfection. Surtout pas idéaliser l'Église, parce qu'on a mieux, on a Marie. Et c'est prodigieux de réaliser le mystère de l'Église, d'abord dans l'aspect qualitatif. Et le plus qualitatif qui soit. Et voyez, en elle, on voit toute la grande attente de l'Ancien Testament. Petite fille. David, elle vit tout le mystère de l'Ancien Testament. Et en elle, à la croix, se trouve réalisé en premier lieu le mystère de l'Église. Et ce mystère de l'Église réclame l'Immaculée Conception. Pour que ce mystère soit parfaitement vécu. Pour que Marie soit victorieuse de la souffrance, de la compassion. Pour qu'elle soit une avec Jésus crucifié. Et qu'elle vive ce mystère en plénitude. Et qu'en même temps, elle achève, elle complète le mystère du sacerdoce du Christ et le mystère de la vie, de l'état victimal de l'agneau. C'est vrai, la grâce de Marie est une participation, la grâce sanctifiante de Marie, la grâce de l'Immaculée Conception, cette plénitude de grâce qu'elle reçoit dès sa conception humaine. Marie reçoit cette plénitude de grâce qui vient de la grâce du Christ, plénitude de grâce chrétienne. C'est pas le retour à l'Ancien Testament. Non. C'est vraiment la grâce de la victoire parfaite du sacrifice de la croix. Et ça, je crois que c'est très important à l'égard de nos frères protestants. Il faut toujours se rappeler ça, parce qu'on leur présente le mystère d'Immaculée Conception comme si on diminuait l'universalité du mystère de la rédemption. Je l'ai constaté plus d'une fois dans un dialogue avec les protestants, des protestants qui avaient une vraie vie intérieure. La grande difficulté pour eux, c'est le mystère d'Immaculée Conception. Parce que Jésus, si elle est immaculée, c'est le raisonnement qu'ils disent, si elle est immaculée, Jésus n'est plus le sauveur universel. Alors qu'il faut montrer qu'il y a deux manières de sauver quelqu'un. On peut le sauver radicalement, avant qu'il tombe. Et on peut le sauver une fois qu'il est tombé. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Poser le problème comme ça, ça dit, à ce moment-là, commence à dire quoi ? On ne nous a jamais dit ça, mais oui. Mais c'est vrai que il faut, parce que beaucoup de protestants ont très fort le sens de la croix et de la rédemption. Il faut leur montrer qu'ils ne peuvent pas saisir parfaitement le mystère de la rédemption s'il refuse le mystère de l'Immaculée Conception. Puisque par le mystère de l'Immaculée Conception, on voit l'efficacité souveraine et toute divine du mystère de la rédemption. La grâce de l'Immaculée Conception, c'est le triomphe de la croix. Dans ce qu'il a de plus fort. Oui, au fond, autrement dit, essayez de comprendre, et ce serait très beau du reste, un traité sur le mystère de Marie, en comprenant Marie face à la tête. Alors c'est ce que Saint Bernard dit, le coup. C'est beau comme image. Marie face à l'époux. C'est Marie qui vit tout le mystère du cantique des cantiques à la croix. Et là, c'est Saint Bernard aussi. Marie qui vit tout proche de la pierre angulaire. Celle qu'on met immédiatement perspective de la vigne, la fécondité merveilleuse au plan divin. Marie, mère de l'Église, mère de toute grâce. Au-delà des, voyez, et avant les sacrements, mère de toute grâce. C'est donc une intention de Dieu de faire que l'Église soit maternelle. Et ça, c'est l'intention de la sagesse de Dieu, de faire que l'Église soit maternelle par Marie. Et que tout chrétien, dans la mesure où il est lié à Marie, est maternel. Infiniment grand en Marie, par elle. Dans la mesure où on reçoit Marie, in soi, dans notre intimité. Alors, cela fait comprendre comment elle est donnée spécialement à Jean. L'apôtre fidèle jusqu'à la croix. Il y a une signification très profonde là. C'est que Marie exerce sa maternité dans la mesure où on est fidèle, témoin fidèle du Christ. Et dans la mesure où on vit le mystère de la croix. C'est là où elle rassemble ses enfants. Et sa maternité regarde toute l'Église, mais d'une manière toute particulière. Ceux qui sont les plus proches du Christ dans la fidélité. Et ceux qui sont les plus fragiles et les plus misérables. Les deux extrêmes de la maternité de Marie. Et c'est peut-être par la maternité de Marie qu'on peut mieux comprendre ce que je vous signalais. Le mystère de l'œcuménisme implique le peuple d'Israël. Parce que dans le cœur de Marie, Élie est impliqué, Israël. Elle est fille de Sion. Et c'est Marie qui fait le lien entre l'ancienne alliance, la première alliance, et la nouvelle alliance. Dans la lumière de Marie, qu'on doit saisir le mystère de la hiérarchie. Puisqu'elle est médiatrice d'une manière maternelle. Et c'est peut-être cela qui permettrait de mieux s'approcher des orthodoxes. Si nous leur présentons le mystère de la maternité divine de Marie comme plus fondamental que le mystère de la hiérarchie d'Église. C'est comme ça, hein. C'est pas par un souci apologétique et on leur présente pas assez comme cela. Parce que les orthodoxes ont un très grand amour de Marie. Le mystère de la hiérarchie repose, voyez, ou si vous voulez, est impliqué à cause des sacrements. Si, je pose la question, vous voyez, si, de temps en temps, on doit faire une théologie hypothétique, mais il ne faut pas rester dans cette hypothèse. Si il n'y avait pas les sacrements, il n'y aurait pas la hiérarchie. La hiérarchie, elle est, il y aurait uniquement peut-être un magistère pour la parole de Dieu. Je ne sais pas. On peut poser la question. Hein. C'est intéressant de se poser de temps en temps des questions comme ça pour voir à quel moment apparaît dans l'Église le mystère de l'autorité. L'autorité, elle est fondée sur Jésus. Elle est fondée sur le don de l'Esprit Saint. Les deux missions. Si je remonte à la source de l'Église, je vois Jésus, tête à la croix, et le don de l'Esprit Saint. On ne peut pas comprendre l'Église sans la très sainte Trinité. C'est le Père qui envoie son Fils pour sauver les hommes et les sauver en étant celui qui institue une église. Il institue l'église par les sacrements, par l'Eucharistie. Et c'est le Père et Jésus qui nous envoie l'Esprit Saint. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a là les deux missions. Avec les deux missions, il y a pour nous deux autorités. L'autorité de Jésus tête. L'autorité de l'Esprit Saint. Souffle d'amour. L'autorité qu'on appelle de fort interne. C'est l'autorité de l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit Saint doit remettre en acte au plus intime de notre foi, de notre espérance, de notre charité, toutes les paroles de Jésus et le commandement suprême de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre intérieurement de tout ce que Jésus a dit. C'est pour ça que c'est vraiment l'autorité de fort interne. Nous devons être de plus en plus dociles à l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont fils de Dieu. Tout le mystère de la divinisation, c'est par l'Esprit Saint. Et c'est l'autorité de l'Esprit Saint qui nous communique la grâce en se servant de Jésus, en se servant de Marie. Ceci, c'est net pour tout chrétien. L'autorité de fort interne, c'est la docilité plénière. Tu vois, l'autorité de fort interne, c'est la docilité plénière que nous devons avoir à l'égard de l'Esprit Saint. Et lui obéir. Le don de conseil. Et c'est merveilleux que c'est le don de conseil, parce que c'est à l'intérieur de l'amour. Et c'est pour ça que c'est vraiment une autorité de fort interne. Obéir au Christ qui est tête du corps mystique. Le Christ, c'est encore une autorité de fort interne, par son humanité, dans son humanité. Obéir à Marie, l'autorité maternelle de Marie, c'est encore du fort interne. Tiens donc les trois. Applique ce mystère de fort interne. l'autorité du Christ, dans la mesure où Jésus institue les sacrements, l'Eucharistie, et qu'il remet l'Eucharistie à un sacerdoce ministériel. Et qu'il dit à Pierre, fais paître mes brebis. Et à travers Pierre, ce sont tous les autres apôtres. Il y a donc l'autorité de fort externe à partir de l'institution des sacrements et à partir du mystère de l'Eucharistie. Puisque le mystère de l'Eucharistie implique un aspect visible. Et les sacrements impliquent toujours un aspect visible du signe et un aspect invisible du don de la grâce. On est donc en présence à la fois de quelque chose de visible et de temporel. Les sacrements sont donnés à travers le temps. Et pour le pèlerinage de l'Église dans le temps. Et ils sont donnés pour l'éternité. C'est par là que nous pouvons saisir l'autorité des apôtres liée à celle de Pierre, l'autorité des évêques continuant celle des apôtres liée à celle du successeur de Pierre, et l'autorité visible se ramène toujours à celle de Pierre. Fais paître mes brebis. C'est une autorité qui regarde le gouvernement de l'Église. Et l'aspect du gouvernement de l'Église implique nécessairement un aspect temporel, un aspect visible. Et cette autorité, elle s'appuie directement sur Jésus, tête de l'Église. Jésus, sauveur et tête de l'Église. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction ou d'opposition, puisque l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ. Et il y a une distinction. Il faut toujours faire entre ce que représente l'autorité temporelle de l'Église, qui dépend de la hiérarchie, et l'autorité invisible de l'Esprit-Saint, qui est le don que Jésus nous fait de son Esprit, que le Père nous fait de son Esprit. Esprit de vérité. Alors, c'est important de comprendre comment l'autorité vise de fort externe est toujours ordonnée à l'autorité de fort interne. Mais l'autorité de fort interne n'exclut jamais l'autorité de fort externe. Parce qu'il y a une petite tentation permanente que le néoplatonisme favorise, au point de vue philosophique, de séparer l'aspect intérieur de l'aspect visible. Les liens entre l'aspect visible et l'aspect invisible prennent toute leur force quand vous essayez de comprendre l'ordre qui existe entre l'autorité de fort interne et l'autorité de fort externe. Toutes les deux viennent du Christ, tête, mais l'une par une voie d'intériorité, l'Esprit Saint. même si l'Esprit-Saint nous est donné à travers les sacrements, il nous est donné aussi au-delà des sacrements. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est très important. Vous voyez, par exemple, quand l'Église interdit, je prends ce cas parce que c'est un cas qui est très douloureux aujourd'hui et qui se répète souvent, hélas, quand l'Église interdit à ceux qui sont remariés civilement, donc impliquant un divorce à l'égard d'un mariage valide, reconnu comme valide, l'Église interdit à ceux qui sont remariés et que le divorce est actuel de pouvoir recevoir l'Eucharistie, de pouvoir recevoir l'absolution s'ils vivent ensemble. Frères et sœurs, l'Église demande de ne pas recevoir l'Eucharistie. Vous savez que c'est un problème qui revient tout le temps au point du pastoral. Il faut à ce moment-là comprendre que ceux qui ne peuvent pas recevoir l'absolution et l'Eucharistie restent liés d'une manière invisible au mystère de l'Esprit-Saint et au mystère de Marie. Parce qu'il peut très bien se faire dans certains cas qu'il y a un pardon de Dieu que je ne peux pas affirmer à l'extérieur mais qui est intérieur. Parce qu'il y a des cas, on sait très bien que le divorce a été voulu par l'un et pas par l'autre. Donc on subit, on n'est pas coupable. Et que les circonstances faisaient que c'était impossible de vivre seul. À cause des enfants ou à cause de telle ou telle circonstance. Vous voyez, il peut se faire qu'il y ait un lien divin qui demeure par l'Esprit-Saint, par Marie. C'est pour ça qu'il faut toujours favoriser la prière. Bien que de fait, il ne puisse pas y avoir les sacrements. Mais il y a une séparation entre l'invisible et le visible. Normalement, il ne doit pas y avoir de séparation. Il y a une continuité. Mais il peut arriver, et il ne faut jamais l'oublier, parce que ça fait partie du regard de Dieu à travers le mystère de l'Esprit-Saint, mystère d'amour, d'amour pur, de surabondance d'amour, et le mystère de Marie. Au-delà de la hiérarchie. La hiérarchie, donc, repose sur la parole que Jésus dit à Pierre, « Fais paître mes brebis. » Alors, voyez toujours la différence avec Marie. Jésus dit à Marie, « Voilà ton fils. » Alors mettez bien en parallèle, fais paître mes brebis, ce sont les brebis, non pas de Pierre, mais du Christ. Et Jean est le fils du Christ et de Marie, voilà ton fils. Je crois que c'est très important ça, pour voir la différence qu'il y a d'intimité entre le lien avec Marie et le lien avec Pierre. J'espère que vous voyez suffisamment. Pas besoin de développer trop, mais c'est très important. Parce que ça fait comprendre que Marie, selon la volonté de Dieu, elle est mère au sens fort de notre vie divine. Et nous sommes vraiment ses fils, ses enfants, à l'égard de Pierre et du successeur de Pierre. On est les brebis du Christ qui lui sont confiées. Et donc, nous devons le respecter, puisque Jésus lui a confié ses brebis. Fais paître mes brebis. Et nous devons lui obéir. Oui. À Marie, il y a quelque chose de plus, puisqu'il y a un lien de filiation. Alors vous allez me dire, mais il peut y avoir un lien de filiation avec le pape, avec un évêque, avec un prêtre. Oui, mais ce lien de filiation sera toujours différent du lien avec Marie. Parce que c'est un lien qui est lié au sacrement. Il est sacramentel. Mais il peut, étant sacramentel, devenir un lien de charité fraternelle. Très fort. Et c'est vrai, ça. Mais c'est un lien de charité fraternelle. Dans le corps mystique. Tandis que Marie restera éternellement notre mère. Alors parce qu'elle reste éternellement notre mère, il vaut mieux qu'elle le soit tout de suite. N'est-ce pas ? Pierre n'est pas au sens fort. Père, vous voyez. C'est pour ça que de temps en temps, certains, étant donné ça, ont de la peine à comprendre quand on dit par exemple qu'il faut vivre de la paternité de Saint Jean. Il faut vivre de la paternité de Saint Jean à travers Marie. Vous voyez, c'est toujours ça qu'il faut se dire. Et c'est Marie qui fait cela, qui fait ce quelque chose de plus. Et c'est à l'égard de Jean qu'il y a ça. Parce que c'est un lien intérieur à l'égard de ce lien de maternité et donc de filiation à l'égard de Marie. Marie est notre mère. Oui, c'est très impressionnant de voir comment Jean, dans son évangile, précise bien les deux aspects. C'est très net. Fais paître mes brebis. Voilà ton fils. Oui, alors, ce sont deux silex, puisque ce sont deux paroles du Christ, qu'il faut frotter l'une contre l'autre pour comprendre pleinement et totalement ce regard différent de Jésus sur Marie, lié à Jean, et le regard sur Pierre, lié à l'Église. Mais d'où cette discussion constante des pères de l'Église et que saint Thomas a repris à sa manière. Quel est celui que le Christ aime le plus, Pierre ou Jean? Vous comprenez, c'est une question qu'on ne doit pas se poser, puisqu'il n'y a pas de solution. Jésus aime Pierre d'une manière infinie, il aime Jean d'une manière infinie. Alors c'est difficile de faire des comparaisons dans l'infini. Il y a un amour unique pour Pierre, il y a un amour unique pour Jean. Bon, Thomas d'Aquin sait très bien qu'il n'y a pas de réponse, et cependant, il essaie de donner une réponse. Il dit qu'il y a un amour d'une tendresse plus grande pour Jean, parce que, à l'égard de Jean, il y a des liens plus profonds. Mais à l'égard de Pierre, on retrouve des liens de confiance, il lui confie l'Église, toute l'Église. Et c'est très beau du reste de voir ça, parce que ça prouve que là on touche à un mystère très très intime. Ce point de vue de la famille, Marie, il n'y a pas de famille si la mère n'est pas là. Et vous savez que c'est la mère qui fait l'unité de la famille. Quand la mère est absente, le père doit le faire. Mais il a beaucoup de peine de le faire tout seul. La mère fait ça beaucoup mieux. Sans doute parce que son autorité est une autorité seconde, pas première. La mère a l'autorité que le père lui donne. Et Jésus donne à Marie toute autorité, puisqu'elle est reine. Elle est deux. Et si on veut comprendre l'autorité de Marie, il faut regarder ce passage de l'Apocalypse, très étonnant, très mystérieux. 14:14, facile à retenir, où l'on voit que Jésus va jeter sa faucille pour moissonner, quand Marie, j'essaie de comprendre, quand Marie lui dira « jette ta faucille ». Et Marie va jeter sa faucille pour vendanger. Jésus moissonne, Marie vendange. Et je crois que ceci, c'est très important pour comprendre le rôle particulier de Marie. Je ne crois pas que c'est Pierre. C'est Marie et Jésus, tous les deux. Jésus moissonne le mystère de l'amour à l'égard du Père. Marie vendange le mystère de la charité fraternelle. C'est le sang du Christ. Et Marie est associée à Jésus dans son autorité ultime et dernière, qui est celle du jugement dernier, qui est celle du discernement dernier. Il y a là un passage, je donne mon interprétation, hein, parce que c'est pas dit comme ça, hein. Ça serait trop facile. Tous les mystères sont cachés. Il faut essayer de le découvrir. Et on a le devoir d'essayer de découvrir. Parce qu'on a un devoir filial à l'égard de Marie, d'aller le plus loin qu'on peut, sans imaginer, dans la foi, le plus loin qu'on peut, sur son mystère de maternité et de reine. Et découvrir par là comment Marie est associée à Jésus. Et comment Pierre est associé à Jésus. Et va toujours revenir à ces deux aspects. Voilà ton fils, fais paître mes brebis. Vous voyez, je ne l'ai pas dit ce matin, c'est pour ça que je vous le redis maintenant, l'analogie qu'on établit entre l'Église et le sacrement, c'est une analogie. C'est une comparaison. Comme sacrement. C'est une analogie per similitudinem. C'est pas une analogie propre. C'est une analogie des rapports entre, du lien qui existe entre le visible et l'invisible. L'Église est visible et elle est invisible. Les sacrements sont visibles et sont invisibles. Ils sont visibles comme signes, ils sont invisibles comme porteurs de grâce. L'Église est visible comme signe qui manifeste la présence du Christ. Elle est invisible comme instrument de grâce. Alors, j'ai envie de terminer, puisqu'il faut bien terminer ça. On est dans le temps et donc on est dans la hiérarchie. Il faut bien terminer. ce passage, que vous avez peut-être déjà lu, si vous l'avez déjà lu, c'est très bien. Il faut le comprendre de mieux en mieux. Cette chose très simple. Hors de l'Église, point de salut. Alors, vous comprenez la question posée au Saint-Père, posée très délicatement. La foi catholique s'appuie sur trois réalités vivantes qui sont intimement liées. Nous avons déjà abordé les deux premières, Dieu et Jésus-Christ. Il est temps de parler de la troisième, l'Église. Presque tout le monde, même en Occident, croit en Dieu, ou du moins en une divinité quelconque. L'athéisme étayé et déclaré a toujours été et semble être encore réservé à une élite fameuse. Nombreux sont aussi ceux qui continuent à croire qu'en Jésus de Nazareth, Dieu s'est incarné, ou s'est du moins manifesté d'une manière unique. C'est un Italien qui dit ça, alors il n'a pas la même vision. Un Français ne dirait pas ça tout à fait comme ça. Mais l'Église, et en particulier l'Église catholique, la prétention que hors de l'Église, il n'y a point de salut, suscite chez beaucoup un sentiment de révolte. Il n'est pas rare que l'on se demande parmi les chrétiens et même parmi les catholiques pourquoi seule l'Église catholique, au milieu de toutes les autres églises, posséderait la plénitude de l'Évangile et serait seule capable de l'enseigner. Hors de l'Église, point de salut. Pour répondre à cette question, c'est le Saint-Père. Il convient d'abord d'expliquer la doctrine chrétienne du salut et de la médiation du salut, qui vient toujours et uniquement de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. Son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Par conséquent, la vérité révélée est que le salut réside exclusivement dans le Christ. Oui, c'est bien ce que je vous disais. L'Église n'existe comme instrument de salut que lié à Jésus, lié à la tête, lié à l'époux, lié à la pierre angulaire. Ces trois liens inséparables qui sont un et qui sont trois, liés à la vigne. Puisque coupé du tronc, le rameau ne peut plus rien porter comme fruit. L'Église, qui est le corps du Christ, est tout simplement l'instrument de ce salut. Dès les premiers mots de la constitution conciliaire de l'Église, Lumen Gentium, nous lisons « L'Église est dans le Christ ». En quelque sorte, le sacrement, vous voyez, en quelque sorte, comme, donc disons pas l'Église, sacrement de salut, en quelque sorte, il faut nuancer, parce que c'est le os grec, comme, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen, l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En tant que peuple de Dieu, l'Église est donc en même temps le corps du Christ. Le dernier concile a donné une explication pénétrante du mystère de l'Église. Le Fils de Dieu, dans la nature humaine, qui s'est uni, a racheté l'homme en triomphant de la mort par sa mort et sa résurrection. Il l'a transformé en une créature nouvelle. En effet, en communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemblait de toutes les nations, il a fait d'eux mystiquement comme son corps. Mystiquement, c'est-à-dire d'une façon invisible, mais de façon réelle, dans l'amour, comme l'a fort bien exprimé Saint Cyprien de Carthage au IIIe siècle. L'Église universelle se présente donc comme un peuple réuni dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Sa vie vient de Dieu et est en Dieu. Et c'est ainsi que le salut s'accomplit. L'homme est sauvé au sein de l'Église, dans la mesure où c'est en elle qu'il est introduit dans le mystère trinitaire de Dieu, dans le mystère de l'intimité de la vie divine. Cette réalité est difficile à saisir si l'on s'en tient aux apparences de l'Église visible. Mais l'Église est structurée comme un être vivant. C'est exactement l'image que saint Paul a employée dans son intuition admirable du corps du Christ qui est l'Église. Il dit intuition admirable, donc saisie d'une analogie. Nous devenons ainsi les membres de ce corps, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Et voilà la fécondité mutuelle. Dans le travail d'édification du corps du Christ, règne également une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue ses dons variés pour le bien de l'Église, à la mesure de ses richesses et des exigences des services. Ainsi, le Concile est loin de proclamer un quelconque ecclésiocentrisme. L'enseignement conciliaire et christocentrique à tous les niveaux. Et en conséquence, il est profondément enraciné dans le mystère trinitaire. Au cœur de l'Église, on trouve toujours le Christ et son sacrifice, l'agneau, célébré en un sens sur l'autel de toute la création, sur l'autel du monde. Le Christ est le premier-né de toute créature. Par sa résurrection, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Autour de son sacrifice rédempteur, toute la création s'unit et mûrit en Dieu sa vocation éternelle. Et si cette œuvre se réalise dans les douleurs de l'enfantement, son déroulement dans l'histoire est cependant animé par l'espérance, comme nous l'explique saint Paul dans l'Épître aux Romains. Dans le Christ, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, et elle ne peut être autre, comme le dit très bien le Concile, l'unique peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre. Il ne fait pas nombre avec ces peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyen d'un royaume dont le caractère n'est pas terrestre, mais céleste, royal et sacerdotal. Tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le monde, sont dans l'Église saint, en communion avec les autres, et de la sorte, celui qui réside à Rome sait que ceux des Indes sont pour lui un membre. Dans le même document, l'un des plus importants du Concile, nous lisons encore, en vertu de cette catholicité, chacune des parties apporte aux autres et à l'Église tout entière le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties s'accroissent par des échanges mutuels et universels, ainsi que par un effort commun vers une plénitude dans l'unité. Donc toujours, il renvoie au Concile. Dans le Christ, l'Église est communion de multiples façons. L'aspect du corps mystique insiste sur l'aspect de la communion, n'est-ce pas ? La communion communion qu'elle réalise entre les hommes la rend semblable à la divine communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la Trinité. Grâce à cette communion, elle est l'instrument de salut des hommes. Elle porte en elle le mystère du sacrifice rédempteur et s'y retrouve constamment. Par son sang versé, Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a obtenu ainsi une libération définitive. Ça, l'Épître aux Hébreux. Le Christ, donc, est le seul et véritable agent de salut de l'humanité. Il est le médiateur, comme grand prêtre. Et l'Église l'est aussi dans la stricte mesure où elle œuvre par le Christ et dans le Christ. Le Concile enseigne, seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent dans son corps qui est l'Église et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même en laquelle les hommes entrent par la porte du baptême et qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il la saurait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Ça, c'est encore le Concile dans Lumen Gentium. C'est ici que le Concile développe son enseignement sur l'Église en tant qu'agent de salut dans le Christ. Sont pleinement cités, sont pleinement incorporés à la société qui est l'Église, ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein d'Église, mais non de cœur. Le salut vient toujours de l'intérieur par une question d'intention et de foi. Alors c'est ce qu'on a appelé, de façon courante, les membres morts de l'Église. Ils sont sur les registres. Vous comprenez que Dieu n'en a pas tellement besoin, n'est-ce pas ? Ils sont sur les registres. Ils ont été baptisés à telle date. Ils ont été mariés à telle date. Ils sont morts à telle date. Ils sont sur les registres. C'est déjà quelque chose. C'est pas rien. Mais c'est pas ça qui fait qu'on fait partie du corps mystique de l'Église. Et qui fait qu'on est partie vraiment de l'Église. Donc, vous voyez, et c'est ça qui est très beau et très grand dans ce que dit le Saint-Père ici. Pour bien montrer ce rôle particulier, je termine pour ne pas faire tarder trop. Permettez-moi de vous confier un souvenir d'enfance. Un jour, mon père m'a donné un livre de prière qui contenait en particulier une prière de l'Esprit-Saint. Mon père m'a conseillé de la réciter tous les jours et je me suis efforcé de le faire. C'est ainsi que j'ai compris pour la première fois le sens de la parole du Christ à la Samaritaine sur les vrais adorateurs de Dieu, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a eu, depuis cette époque, beaucoup d'étapes sur mon chemin. Par exemple, avant d'entrer au séminaire, j'ai fait la connaissance d'un laïc du nom de Jean Tiranovic. un vrai mystique. Cet homme que je considère comme un saint m'a fait connaître les grands maîtres spirituels espagnols, et en premier lieu Saint Jean de la Croix. Avant d'entrer au séminaire clandestin, je lisais les œuvres de ce mystique, surtout ses poésies. J'ai même étudié le castillan pour pouvoir les lire dans l'original. Ce fut un autre moment décisif dans ma vie. Il y a le père et le laïc mystique. Tu es les sommets. Je crois que la suggestion de mon père a joué un rôle primordial parce qu'elle m'a orienté vers la vraie adoration de Dieu. J'ai trouvé là le désir et le moyen d'appartenir à ces vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai redécouvert l'Église comme communauté de salut. Dans cette Église, j'ai trouvé ma place et ma vocation. J'ai progressivement mesuré la signification de la rédemption accomplie par le Christ et par conséquent la signification des sacrements, en particulier la messe. J'ai peu à peu compris qu'elle avait été le prix de notre rachat. Tout ceci m'a fait pénétrer encore plus profondément dans le mystère de l'Église. Précisément parce qu'elle est un mystère, elle a une dimension invisible. Le Concile nous l'a rappelé, le mystère de l'Église est plus grand que ne le manifeste sa seule structure visible. La structure et l'organisation sont au service du mystère. Et le mystère, c'est le corps mystique. C'est notre participation à la grâce du Christ. C'est notre foi, notre espérance et notre charité sur la terre. En tant que corps mystique du Christ, l'Église nous a accueillis tous. Il nous rassemble tous. Ces dimensions spirituelles et mystiques sont infiniment supérieures à ce dont peuvent rendre compte les statistiques des études sociologiques. Et sa mère dit ça avec une conviction parfaite.